Voilà. Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour nous écouter. Donc, le sujet de cette table ronde sera Le Monde Vert de Brian Aldiss. Donc, le roman appelé Hot House, paru en 1962, donc de Brian Aldiss, qui s'appelle donc Le Monde Vert. Et donc, nous allons parler de ce roman et voir différents thèmes, un petit peu tournés autour de ce roman. Je vais vous présenter les intervenants à cette table ronde, par ordre alphabétique en fait. Alors tout d'abord Pierre Bordage, que probablement beaucoup vous connaissent, qui est un auteur français de science-fiction, qui a écrit plus de 50 romans et un certain nombre de recueils de nouvelles. Récemment, il a publié Gigante, ou Gigante, je ne sais pas comment on prononce le titre, Gigante au nom du père chez La Talente. Il a aussi publié le cycle de Panka en 5 volumes chez La Talente. Et aussi les Chroniques des Ombres au Diable Vauvert. Voilà. Nous avons également à côté de nous Jean-Marc Ligny, qui a aussi écrit une quarantaine de romans, dont une dizaine de romans pour la jeunesse. Il vient de publier Exode, un roman aux éditions La Talente, qui est nominé pour le prix européen des Utopiales de cette année. Un roman qui parle notamment du réchauffement climatique à travers toute une série de personnages, donc ça peut être aussi en lien avec notre livre d'aujourd'hui. Il a aussi publié Des yeux dans le ciel chez Syros en 2012 et Gris noir chez Le Commodo en 2012 et aussi un roman aussi lié au thème de notre table ronde qui s'appelle À quoi, publié en 2006 à La Talente, qui a eu un certain nombre de prix. Et enfin, nous avons aussi Norbert Merjanian qui est là, qui a publié deux romans chez De Noël, Les tours de Samarante, le premier volume. En fait, et le deuxième volume, 13 Altitude 0, et donc c'est le deuxième volume. Avant peut-être de passer la parole à nos auteurs, je vais résumer un petit peu le roman, donc le Monde Vert. Alors, c'est un roman qui raconte, qui se passe sur une terre dans un lointain futur, où suite à un fort réchauffement climatique, la Terre a arrêté de tourner sur elle-même. En fait, donc il y a une face qui est tournée vers le Soleil et une face qui reste éternellement à l'ombre. Et au début, on suit un petit groupe d'êtres humains qui essayent de survivre dans une végétation absolument luxuriante, avec beaucoup d'inventions, de plantes diverses et variées. Et ce petit groupe finit par se diviser en deux. Une partie du groupe va monter sur la Lune, puisque les plantes en fait ont tellement poussé qu'il y a même des lianes qui vont jusqu'à la Lune. Et un autre groupe de personnages, mené par un homme qui s'appelle Graine, lui fait une sorte d'odyssée à travers la planète Terre, où il rencontre toute une série de personnages, toute une série d'entités conscientes, avec lesquelles il y a des sortes de débats philosophiques, où il y a toutes sortes de dialogues et d'aventures. Voilà, et il y a un final avec un départ vers les étoiles pour recommencer une sorte de nouveau cycle de vie sur d'autres planètes. Voilà, en gros, très, très grossièrement résumé, le roman. Voilà, enfin, je vous laisserai effectivement en dire plus. Alors, donc, je vais vous poser comme première question, sur un petit peu ce que vous avez pensé du roman, comment vous l'avez, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce roman, avoir un petit peu votre avis sur ce roman. Alors je vais commencer peut-être, aussi dans l'ordre, je commence par Jean-Marc. Alors Jean-Marc, voilà, quelles sont tes impressions, ou comment t'as relu ce roman, ou lu ce roman, qu'est-ce qui te... Voilà, est-ce que t'as des souvenirs?
Moi j'avais lu ce bouquin, Le Monde Vert, quand il était sorti en France en 74, je crois, donc j'étais encore ado à l'époque, et bon, ça m'avait emballé, parce que il y a une richesse d'invention, un foisonnement qui est, enfin, au niveau des mots, du langage, de l'histoire, etc., qui est assez faramineux quand même. Mais bon, j'étais ado, j'avais pas encore lu des centaines de romans de SF, et puis j'avais une conscience écologique et scientifique encore assez rudimentaire. Donc là, je l'ai relu dernièrement là, pour le débat. Et je me rends compte quand même qu'il est bien de son époque, quoi. Il a été écrit donc au début des années 60 par Brian Aldiss. En fait, il ne faut pas vraiment le prendre comme un roman de science-fiction. Il y a quelques éléments de science-fiction dedans, il y a quelques tentatives d'explication scientifique, mais qui feraient sourire aujourd'hui si on osait les mettre. Moi, je pense qu'un bouquin comme ça, en fait, Brian Aldiss le proposerait à un éditeur aujourd'hui, il serait refusé, quoi, parce qu'il ne tient pas la route. Je veux dire, la science-fiction a mûri depuis, quoi. C'est à la fois un roman jeunesse, parce que les héros, les personnages principaux de l'histoire sont très jeunes. Le discours est parfois très naïf. Bon, il y a beaucoup d'aventures, de rebondissements qui vont bien dans les romans jeunesse. Mais d'un autre côté, c'en est pas un, parce qu'il y a de longues discussions philosophiques, notamment avec la morille, qui est l'espèce de cerveau d'intelligence végétale. Là, je pense qu'il fallait le trouver. Il y a un moment dans l'histoire, il y a une morille qui vient se coller sur la nuque du héros et qui, en fait, devient son second cerveau. Et cette morille est très intelligente et elle explique à un moment que si l'humanité a évolué et qu'elle est sortie de l'état de la bête pour arriver vers l'humain, c'est grâce à elle, parce que la morille est là depuis toujours et que c'est le cerveau du monde végétal. Alors bon, je veux bien que les morilles ont une vague forme de cerveau. De là à imaginer une telle intelligence et une telle philosophie, je me demande si Brian Aldiss, il n'en a pas un peu fumé de la morille. Mais bon, en principe, ça se mange plutôt à la poêle avec des petits oignons de l'ail. Bon, lui, il a peut-être consommé d'une autre façon, qui lui a tout à coup révélé l'intelligence de la morille. Je ne sais pas, c'est assez bizarre. Et bref, donc je disais, ça pourrait être un conte pour enfants, mais d'un autre côté, dès les premières pages, il tue 2-3 gamins, Brian Aldiss, sans vergogne. D'ailleurs, il massacre allègrement les 3/4 de la tribu dès le début du bouquin. Donc ça ne convient pas dans un livre pour enfants. Dans les livres pour enfants, on ne tue pas les enfants en général. Et puis bon, tout l'aspect discours philosophique, évolution de la planète et de l'intelligence ne sied pas trop non plus à des romans pour enfants. Donc, au final, moi je dirais que plutôt qu'un roman de science-fiction, c'est une espèce de conte philosophique où on s'embarrasse assez peu de vraisemblance scientifique finalement. Mais par contre, il y a énormément de poésie, il y a des trouvailles fabuleuses au niveau du langage des plantes, des espèces de créatures hybrides, mi-plantes, mi-animaux. Moi, je rapprocherais de Cyrano de Bergerac ou des voyages de Gulliver, ce genre de choses.
Mais bon, je vais... Ah, merci. Pierre ?
Alors, d'abord, je vais vous dire quelle ne fut pas ma stupeur de voir que j'étais sur un débat sur le monde vert, un grand spécialiste du monde vert, que j'avais dû aussi, comme Jean-Marc, lire il y a très très longtemps et dont je ne me souvenais absolument pas. Donc, j'ai fait comme mes camarades. j'ai repris le livre et je l'ai relu pour participer au débat. C'est intéressant d'avoir justement cette lecture décalé, enfin, dans le temps, parce que ça permet de mieux, peut-être, appréhender le livre. On a aussi beaucoup évolué, effectivement, par rapport aux années 70. Donc, il y a un regard beaucoup plus distancié sur ce livre, qui m'apparaît, après coup, davantage comme un ouvrage de fantasy que de science-fiction. Le voyage de Graine qu'on suit, le personnage qu'on suit principalement dans ses aventures, me fait penser à un voyage initiatique de fantasy avec des rencontres diverses et variées de monstres végétaux, mi-animaux, mi-végétaux, comme disait Jean-Marc, avec une grande naïveté, effectivement, qui est, à mon avis, qui marque la production de ces années-là, des années 60. Ça me fait penser à Demain les chiens de Simac, dans le côté philosophie naïve. Et une sorte de mélange improbable.
Demain les chiens, c'est un autre niveau quand même.
C'est un autre niveau, mais je parle de cette espèce de naïveté et d'invraisemblance scientifique, parce que dans CIMAC, c'est pareil, il y a une sorte de grand mélange d'un tas de choses, une sorte de fourre-tout. Et j'ai l'impression que, effectivement, le livre de Aldiss est aussi un fourre-tout végétal, du coup. voilà. J'ai également été agréablement surpris par la jubilation de l'auteur à effectivement inventer des mots et inventer un univers. On sent qu'il a un plaisir énorme à jouer avec les mots, à créer des mots et à créer des concepts de créatures végétales tout à fait extraordinaires. Je me suis demandé tout au long du livre où il voulait exactement en venir. C'était quoi le projet de ce roman? Et j'ai eu l'impression que il est parti dans ce roman sans trop savoir, je crois que c'est une série de nouvelles au départ, hein. Et sans trop savoir où il allait, et qu'il découvrait qu'il y a une sorte de fascination sur ce monde végétal qui s'était mis en place, ce lien Terre-Lune avec l'espèce de travertoise qui tisse leur toile entre la Terre et la Lune. Et tout ça, il y avait une sorte de fascination et que il y avait un côté presque de transe dans le sens de l'auteur, enfin, qui se livre complètement dans son univers sans trop savoir où il met les pieds, quoi. Et c'est ce que j'ai ressenti à cette lecture-là. Et aussi une fin qui m'a un peu laissé sur ma faim, sans jeu de mots, parce qu'on sent qu'on ne sait pas très bien comment boucler cette histoire, quoi.
J'ai l'impression que enfin, les 20 dernières pages...
Il y a une grande discussion entre la Mori et le reste du monde et l'espèce de créature là qui s'appelle, je ne sais plus comment, Sodalier, c'est ça. Et donc il y a une sorte de tentative d'expliquer le pourquoi des choses, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de but au livre. On en parlait tout à l'heure avec Norbert, alors peut-être cette espèce le but du livre, c'est de montrer une évolution différente ou une régression évolutive, je ne sais pas. Où la nature reprend tous ses droits et devient du coup l'élément dominant avec cette espèce de banyan géant qui couvre tout un continent. Et voilà, c'est un livre assez étrange. Pour moi, presque chamanique, il tient davantage de l'expérience de la transe que de l'écriture de SF proprement dite qui essaie de mêler une sorte de vraisemblance scientifique à la fiction. Là, pour moi, c'est vraiment un livre de plongée dans un univers.
Oui, moi, à la différence de Jean-Marc et de Pierre, je n'avais pas lu ce livre avant de voir que j'étais sur la conférence. Et donc, je l'ai découvert. Et effectivement, ce que je partage tout à fait leur avis, c'est-à-dire que c'est un livre qui est très incomplet pour beaucoup d'aspects. D'un point de vue scientifique, il est juste catastrophique. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il est, il est, c'est même pas des invraisemblances, ce sont des choses qui confinent parfois à la bêtise. Par exemple, j'en cite une quand même. Après, on évacue la part scientifique, mais dans un monde envahi par les végétaux, la production d'oxygène est énorme. Vraisemblable, ça a déjà existé sur la Terre quasiment à ses origines. Le taux d'oxygène augmente et donc le seuil d'ignition, c'est-à-dire à cause de l'oxygène, est dépassé et donc ces forêts, normalement, devraient être en train de brûler sans arrêt. Donc il y a même une méconnaissance du cycle de base entre oxygène et gaz carbonique qui est quand même ce qu'on apprend en école primaire. Donc j'évacue la partie scientifique parce qu'effectivement l'intérêt du livre c'est plutôt cette odyssée philosophique. À mon sens, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est un livre qui est quand même extrêmement pessimiste sur l'évolution de la planète, bon ça c'est un thème actuel, sur l'intelligence également, puisque l'intelligence, enfin on va en reparler, mais la plus grande intelligence décrite dans ce livre, c'est un parasite. Donc là aussi on peut se poser la question de ce que l'auteur a voulu dire entre le rapport entre l'intelligence et la nature. Et au fond, le propos de l'auteur, pour moi, est nourri sans arrêt d'une espèce de peur. Je ressens alors il y a peut-être une jouissance dans les mots, dans l'écriture, dans le fait de, mais il y a une peur par rapport à une nature justement foisonnante, une nature qui n'est pas maîtrisée. Et cette peur, elle se retrouve face au danger permanent auquel ce groupe d'humains est confronté. Ils se font tuer très très vite. Donc on imagine mal d'ailleurs comment ils peuvent survivre, mis à part dans le petit temps du roman, mais sur une vie humaine, le taux de mortalité est tellement important qu'un petit groupe d'humains dans ce monde aurait une durée de vie vraisemblablement d'un ou deux ans. Et le monde végétal est conçu comme un monde extrêmement agressif, extrêmement... avec il est essentiellement carnivore. Là aussi, c'est assez bizarre pour un monde vert, c'est-à-dire qu'il fonctionne à la photosynthèse, de voir que la plupart des plantes sont carnivores. Donc, bon, passons. Donc, c'est un monde hostile. C'est un monde extrêmement hostile. Alors, non seulement parce que la Terre ayant arrêté de tourner, l'environnement global est devenu plus difficile, mais également parce que la nature qui s'y développe tend vers une hostilité, une agressivité, une violence beaucoup plus forte. Et moi, ce que je sens sous-jacent dans ce livre, c'est une grande peur par rapport à cette forme de nature.
Bien, merci. Effectivement, il y a deux, trois thèmes donc qu'on peut évoquer par rapport à ce livre. Peut-être une question qu'on peut poser, qui peut être en lien aussi avec les autres tables rondes de ce matin, c'est: est-ce que vous pensez que c'est un livre qui parle d'écologie ?
À mon avis, non, parce que la nature exubérante que décrit Aldiss dans Le Monde Vert, il n'en fait pas une analyse scientifique, là, comme on vient de le souligner. C'est un monde, tout simplement, d'un point de vue écologique, physique, astronomique, etc., impossible. Déjà, si la Terre arrêtait de tourner, supposons qu'il y ait une raison qui fasse qu'elle arrête de tourner. Bon, là, il écrit vaguement que c'est parce que le soleil s'est mis à enfler. Bon, le soleil, il ne va pas commencer à enfler avant 5 ou 6 milliards d'années, quand même. Et je ne vois pas en quoi le fait que le soleil gonfle ferait que la Terre s'arrêterait de tourner. Mais bon, supposons. Si la Terre s'arrêtait de tourner, la face exposée en permanence au soleil finirait par griller, et puis ce serait plutôt un désert qui s'installerait qu'une cette espèce de jungle foisonnante. Donc, à mon avis, là, Aldiss, il parle pas de la nature, ni pour la défendre, ni pour l'accuser. Moi, c'est ce que j'ai apprécié dans le bouquin. Enfin, là, Norbert, tu dis qu'il en a un peu peur. Moi, je pense qu'il décrit un peu quand même la nature telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un monde sans pitié, en fait. Il n'y a pas de... Bon, dans un monde végétal, une forêt dense, une forêt tropicale, effectivement, c'est une lutte impitoyable pour la survie entre les végétaux, les animaux, etc. Ceci dit, effectivement, les plantes deviennent carnivores, elles sont prêtes à s'attaquer à tout ce qui bouge, ils leur poussent des pattes, des ailes, des yeux, des embryons de cerveau, etc. C'est un peu une espèce d'hybridation entre le monde animal et végétal. Moi, je pense que Aldiss n'a pas du tout eu une conscience écologique. D'ailleurs, dans les années 60, l'écologie était assez embryonnaire. Il n'a pas voulu écrire ce livre ni comme un avertissement, genre si on attaque la nature va se venger et puis voilà ce qu'elle va nous faire. Ou bien il faut asservir la nature parce que la nature est un monde hostile et il faut la maîtriser. Il n'y a pas ce genre de message dans le livre. En fait, le seul message que j'ai trouvé, et Norbert aussi l'a souligné, mais tu vas peut-être en reparler un peu, justement, c'est ce qu'il appelle la dévolution. Que dans une nature foisonnante, où l'humanité a fini par disparaître sous ce foisonnement végétal, l'humanité a régressé et les hommes reviennent peu à peu au végétal, en fait. Autant les plantes évoluent vers le règne animal, d'un côté, et autant les hommes reviennent au végétal. D'ailleurs, il y a tout un passage où notre héros, Gren, rencontre les pêcheurs, donc les Bedon-Beden, ils s'appellent eux-mêmes,
Bedon-Beden, ouais.
Et qui sont reliés à l'arbre Beden, par une espèce de cordon ombilical, et leur bonheur, en fait, est de nourrir l'arbre et de servir l'arbre. Et quand le héros coupe ce cordon, Les malheureux Bedon Bonnen vivent dans la terreur et n'ont qu'une envie, c'est de s'asservir à un autre arbre le plus vite possible. Mais il y a tout l'aspect d'évolution dont tu parlais à l'instant. Donc, du coup, je te laisse peut-être le développer, toi.
Oui, alors, c'est vrai que l'auteur finit dans les dernières pages sur le discours de la Maurique et donc cette intelligence supérieure dans ce monde et qui annonce, enfin, qui parle de ce concept de dévolution, c'est-à-dire une espèce d'évolution négative, d'évolution régressive. Et je pense que c'était ça, fondamentalement, son propos. Et en ça, c'est un livre. Alors, est-ce qu'il... Moi, je pense qu'au contraire, il, en tout cas, c'est un livre pré-écologique dans le sens où cette notion de dévolution, elle annonce un petit peu les idées de quelque chose, décroissance, quelque chose où on sort du monde. On est dans les années 60, on sort un petit peu du monde... productiviste lié fondamentalement à une évolution industrielle, etc. Et on annonce même conceptuellement l'idée que la nature, la terre, etc. pourrait évoluer de façon régressive. Là aussi, moi, je pense, je suis mal placé pour parler d'écologie, mais je pense que c'est un rapport à la nature qui est extrêmement pessimiste, parce que précisément la nature a été confronté à des situations catastrophiques depuis la création de la Terre et systématiquement a trouvé des voies d'évolution en changeant, non pas en faisant comme l'homme fait traditionnellement dès qu'il est confronté à quelque chose qui le met radicalement en cause. L'homme a tendance à effectivement revenir à des choses connues. La nature, elle, invente. La nature est profondément inventive et c'est cette invention qu'on trouve dans le livre au travers du foisonnement de ces plantes, mais en même temps c'est une invention qui est vue, à mon avis, par l'auteur comme quelque chose qui fait peur. Et en ça, ça me fait penser aux récits presque archaïques. Dans les récits les plus archaïques de la mythologie, il y a un thème qui transparaît dans quasiment tous ces récits, c'est la différence entre ce qui appartient au cosmos et ce qui appartient au chaos. Le cosmos, c'est le monde ordonné, c'est le monde en général religieux, c'est le monde des hommes, c'est le monde où chaque chose a trouvé une place, un rituel, un ordre, etc., et les choses s'expliquent. Le monde du chaos, c'est le monde de l'informe, c'est le monde des monstres, c'est le monde, mais c'est également le monde du foisonnement. Et je pense que dans ce livre, on a l'histoire d'un monde qui retourne vers le chaos et qui perd son ordre. Et les hommes, du coup, n'ont plus de culture, ont une culture extrêmement, extrêmement fragile. On ne sait plus expliquer le monde. Il n'y a pas un récit. Les hommes n'ont pas un récit pour expliquer le monde. Et on retourne vers ce chaos informe. D'ailleurs, dans le livre, toutes les espèces... se mêlent les unes aux autres. Il y a une espèce de mutation entre la faune et la flore, mais avec cette tendance toujours régressive ou parasitaire comme la morille. Et donc c'est cette peur du chaos et du foisonnement, moi, que je vois. Et cette idée de dévolution, c'est-à-dire d'une évolution négative, pour moi, elle transparaît dans le livre et elle annonce peut-être une partie, en tout cas, de la pensée politique qui va suivre dans les années 70, avec une crainte ou en tout cas une méfiance par rapport à tout ce qui concerne l'évolution qu'elle soit humaine au travers des techniques, des savoirs, etc. Et là où ça s'éloigne peut-être de la pensée écologique, ou même d'évolution au sens de la nature ou de la vie, c'est-à-dire d'une évolution qui irait vers une destruction. C'est quand même un monde mourant, hein. Le monde qu'il décrit, et d'ailleurs on le voit à la fin, c'est un monde qui est voué à mourir.
Moi j'ai l'impression, enfin, que le livre n'est pas volontairement écologique. Que j'ai plutôt l'impression que l'auteur, mais s'il était là, il pourrait nous le dire, je ne sais pas, veut plutôt jouer avec des concepts, et entre autres le concept de la fragilité de l'homme par rapport à un environnement qui devient hostile. on est dans les années 60 et je pense pas que dans les années 60 il y a déjà sa mort cette, on est en plein dans les glorieuses et je ne sais pas s'il y a déjà cette réflexion sur pessimiste sur la, je pense qu'on est plutôt dans une vague optimiste où la science progresse énormément et va peut-être apporter le bonheur à l'humanité, enfin c'est ce qu'on croit. Et j'ai l'impression que c'est plus un jeu pour Aldiz de confronter l'homme à cette espèce de végétation exubérante, comme s'il avait un terrain de jeu, comme dans l'espèce opéra, on a l'espace, hein, l'espace qui n'est pas colonisé, donc qui est forcément hostile. Tu parlais de mythologie, c'est vrai qu'il y a un côté voyage de l'Odyssée, voyage d'Ulysse, traverser un monde très hostile avec des créatures monstrueuses, etc., qu'on ne connaît pas. Ce qui ressort tout dans l'espèce opéra, et moi j'ai l'impression que c'est un terrain de jeu pour Aldiz dans lequel il se coule avec une sorte de délice qui fait qu'on s'intéresse quand même à l'histoire, on oublie les invraisemblances parce qu'il y en a un paquet, on s'en fout. Je trouve ça très beau, moi, l'idée de Liane, de cette espèce d'araignée géante, héritière des araignées géantes qui tissent des toiles entre la Terre et la Lune, et je trouve ça très beau comme image poétique. Donc il y a une sorte de jubilation poétique d'écriture qui fait que ça transcende un peu l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus un ouvrage de fantasy qu'un ouvrage de science-fiction. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'Aldiz veut jouer simplement avec un univers et place ses personnages dans cet univers-là pour simplement voir comment ils réagissent, créer ce sentiment d'hostilité, donc d'oppression permanente. C'est vrai qu'à chaque coin de rue, à chaque coin de branche, pardon, il y a un danger, il y a une bestiole, il y a une langue qui surgit de je ne sais où, il y a une bouche qui s'ouvre, il y a un estomac même, comme l'espèce de créature qui est fixée au rocher, qui se dilate et qui est un estomac pur, enfin, etc. Donc on est dans la fantasmagorie, dans la fantaisie, mais surtout, enfin, à mon avis, pas dans la science-fiction. Je reprends l'exemple de Heinlein tout à l'heure, parce que tu disais que le bouquin est plus ambitieux de Heinlein, c'est vrai philosophiquement, il y a beaucoup plus de choses dans le bouquin de Heinlein, mais il y a des droneurs, il y a des types qui vont dans l'atmosphère de Neptune ou Jupiter, je ne me souviens plus, qui est totalement invraisemblable aussi, parce que c'est des planètes gazeuses, absolument invivables. Mais voilà, ces auteurs-là, j'ai l'impression, dans ces années-là, sont dans le concept, dans le jeu, dans la création d'univers pur, sans trop tenir compte des aspects scientifiques, parce que c'est simplement l'imaginaire débridé qui s'en va à l'assaut comme ça de monde, ouais. Et tout ça, quoi. Et c'est pour ça que je pense pas qu'il y ait une volonté vraiment écologique, mais ce qui ressort du coup du bouquin derrière, hein, quoi, à l'arrière-goût du livre, c'est oui, la nature développée à ce stade-là extrême devient très dangereuse. L'homme devient tout petit, c'est une fourmi du coup dans cette espèce de foisonnement. Et donc ça me fait penser aussi à l'homme qui rétrécit, où tout devient dangereux d'un seul coup parce que les araignées sont monstrueuses. Enfin, on est à cette échelle-là et on est plus, à mon avis, dans un récit effectivement de type mythologique, fantasmatique, plutôt que de science-fiction.
Ouais, moi je pense qu'on se permettait beaucoup de choses en SF à cette époque-là, sans avoir trop se soucier de vraisemblance.
C'est la morille, c'est terrible.
Mais je voulais rebondir un peu sur ce que disait Norbert, que la notion d'évolution qu'aborde Brian Aldiz à la fin annonçait un peu la décroissance dont on parle maintenant. Juste pour préciser que, en fait, c'est un peu l'inverse, parce que la décroissance, oui, ça l'annonce d'une certaine manière, mais d'un point de vue négatif. Actuellement, quand on parle de décroissance, c'est avec un a priori positif, quoi. On se dit, bon, pour sauver la planète, il faut arrêter de consommer à outrance, il faut arrêter cette production effrénée, il faut arrêter cette exploitation effrénée de la nature, etc. Donc, effectivement, aller à l'inverse du credo économique mondial qui est la croissance à tout prix. Et donc la décroissance est vue actuellement comme une solution positive pour justement préserver l'écologie mondiale. Alors que là, chez Brian Aldiz, cette dévolution dont il parle, il l'aperçoit négativement, quoi. Tout régresse vers une espèce de chaos d'origine où tout se mélange, où toutes les formes sont indifférenciées, et y compris l'intelligence humaine. Et ça, il les souligne bien, et ça, c'est quelque chose qui m'a fait tilter et dont, voilà, à mon avis, je vais peut-être m'inspirer pour mon prochain bouquin. Que, effectivement, quand la civilisation a... toute forme de société, de civilisation a disparu, que l'homme est réduit à à ses instincts de survie les plus primitifs, parce qu'au départ, c'est ça. Bon, la quête survient après, mais au début, on les voit uniquement dans un cadre de lutte quotidienne.
Il y a encore une petite civilisation, parce qu'il y a cette espèce d'idée d'âme qu'on transporte avec soi en permanence et qu'on élève, il y a la montée finale.
Oui, il y a l'âme, bon, qui a un bout de bois vaguement sculpté, etc. Ils sont encore en tribu, parce que en tribu, ben, dans une tribu, on arrive mieux à survivre que tout seul. Bon, ouais, la montée au cime, comment ils appellent ça, ouais, la montée au cime. La montée, donc, quand quelqu'un tombe au vert, donc ça veut dire qu'il meurt, il tombe au vert, donc ça veut dire, boum, il dégringole dans les frondaisons, et puis là, bah, aucune chance de survie n'est possible. Donc, les autres membres de la tribu prennent son âme, qui est un petit bout de bois.
Totem, ou une sorte de totem.
Une espèce de petit totem fétiche, un peu vaguement sculpté à forme humaine, et l'emmène donc vers la cime pour qu'il s'envole dans le ciel sur le dos des travertoises, en fait. Et les travertoises sont des araignées végétales géantes qui font à peu près 1 kilomètre de diamètre, hein, et qui tissent donc des grands fils de soie au-dessus des cimes de la jungle. Donc, tous les cimes de la jungle sont couvertes de ces fils de soie, comme ça, qui sont en fait des câbles, genre câbles de marine plutôt, hein, vu la dimension des bestiaux, et qui tissent comme ça des fils jusqu'à la Lune, où elles ont établi, en fait, elles ont terraformé la Lune, les travertoises. C'est très joli, c'est complètement irréaliste, mais c'est très joli. Et Aldis insiste à plusieurs reprises sur le fait que l'homme devient bête, quoi. Non seulement bête un peu au sens propre du terme, c'est-à-dire animal, mais bête aussi dans le sens où il perd son intelligence. Peu à peu, il perd son intelligence, il ne trouve plus les mots, il n'arrive plus à saisir les concepts. Et donc, c'est à la fin, Lamori, qui est à la fois un guide et un parasite, en fait, qui va redonner à Gren, au héros, semblant d'intelligence,
à la fin,
une connaissance.
Quand même, Gren s'affranchit de Lamori et devient aussi un être intelligent, enfin... part à la reconquête de son intelligence, quoi. C'est aussi il y a une sorte de petite lueur optimiste de la fin du livre. Comme tu disais, c'est un livre assez pessimiste sur on est fragile, nous, l'humanité, par rapport à la nature, mais à la fin il y a quand même Gren qui, grâce à la Morille, grâce à l'intelligence que lui a transmise la Morille, l'espèce de savoir, et aussi la Morille, elle est intéressante parce qu'elle est la mémoire humaine, finalement. C'est elle qui aide les héros à plonger dans la mémoire humaine, c'est elle qui reconstitue l'histoire humaine, d'où c'est son intérêt. C'est une sorte de cerveau extérieur qui permet aux humains, finalement, de reconstituer leur propre histoire, et je pense que c'est elle qui permet aux héros, finalement, de repartir à la conquête de l'humanité. Donc une sorte de petite ouverture optimiste, quand même.
Justement, je voulais vous poser une autre question par rapport à ça. Dans les livres, on voit qu'il y a un rapport un peu entre le bonheur et l'intelligence, en fait, par rapport à cette nature. On voit que les humains qui sont heureux dans ce livre sont effectivement ceux qui, soit effectivement sont inféodés à un arbre, comme les Bedon-Beden, qui sont effectivement, du coup, sont au service de l'arbre et sont heureux. Ou alors, il y a un moment dans le livre aussi où les personnages se retrouvent sur une petite île au milieu de l'océan, une sorte de paradis terrestre, et ils y sont bien, ils ont à manger, ils vont très bien, enfin, tout se passe bien pour eux. Et c'est la Mori qui oblige le personnage à repartir en quête, comme ça, et qui lui dit, voilà, tu ne peux pas rester là, tu dois retourner, essayer de dominer ce monde, essayer de le contrôler, essayer de faire autre chose. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de discours aussi de Aldis, enfin une proposition philosophique, c'est est-ce que, en fait, est-ce que le bonheur pour ces humains sur cette planète, est-ce qu'il passe par justement la perte de la curiosité, la perte de l'intelligence, ou retrouver une sorte de bonheur végétal brut, ou de... Voilà, il y a une sorte, il me semble, de discours là autour. Enfin, voilà, je voulais vous faire réagir par rapport à ça.
Oui, bah, justement, c'est assez contradictoire. Le discours d'Aldis là-dessus, parce que effectivement, au début, Gren n'a qu'une envie, c'est d'explorer le monde. Il veut quitter sa tribu, il veut découvrir le vaste monde et tout. Bon, à un moment, donc, il se fait asservir par la Mori, qui, en fait, lui prodigue une mémoire, des connaissances, un savoir, etc., ce qui au début lui plaît beaucoup à Graine. Mais la Maurie sert ses propres desseins. La Maurie, ce qu'elle veut, c'est se répandre sur la planète et elle cherche un véhicule, en fait, pour sa propre expansion, quoi. Et donc, peu à peu, Graine, résistant à ses ordres, etc., elle devient de plus en plus tyrannique, coercitive, et voilà, jusqu'au moment où Graine, donc, réussit à s'en débarrasser par une ruse assez grossière, d'ailleurs, faut le dire. Ouais, le Sodal, ouais, qui lui est aussi un être intelligent, une espèce de moitié de dauphin porté sur le dos d'un vieillard qui meurt sous la tâche, d'ailleurs. C'est assez cruel. Et donc, une fois la Maurie partie, Graine regrette un peu tout ce savoir qu'elle lui inculquait, en même temps qu'il est content d'être débarrassé de la tyrannie. Mais ce savoir, il en fait quoi? Il en fait rien, en fait. À la fin, bon, il retrouve les cosmonautes de la Travertoise, là, ceux qui sont allés sur la Lune, bon, qui atterrissent sur Terre, je dirais, comme un cheveu sur la soupe, en fait, pile poil au bon endroit, au bon moment. Bon, on passera sur la pirouette qui fait que le monde est bien petit quand même. Et donc, la Maurie qui est toujours là, qui a pris possession du demi-dauphin, là, du coup, pour poursuivre son expansion, en fait, exhorte l'humanité à partir vers les étoiles. Et Graine, il refuse. Il veut retourner sur son arme, il veut reprendre sa vie d'avant, en fait. Et donc, toute son intelligence qu'il a acquise, finalement, va lui servir à rien, parce que si on en croit la dévolution d'Aldis, eh ben, à reprendre sa vie d'avant, il va retomber dans la dévolution et dans son, son hébétude.
Je ne pense pas. Moi, je pense que le personnage de Graine a changé avec l'histoire de la Maurie. Mais la Maurie elle-même a changé. C'est ça qui est étonnant dans le bouquin, c'est que la Maurie aussi... parce qu'au début, on ne sait pas très bien ce qu'elle veut, la Maurie. Elle veut coloniser, apparemment. Elle veut s'étendre et se sert de tous les êtres qu'elle trouve pour pouvoir s'étendre. Elle trouve que l'humain, c'est le vecteur idéal pour poursuivre son expansion. D'où l'idée de décroissance me paraît un peu, tu vois, parce que là, du coup, c'est la nature qui cherche toujours à s'imposer et à coloniser, à dominer. Mais il me semble aussi que la Maurie a changé et qu'elle a profité de l'esprit. Elle avait besoin de autant de l'humain que l'humain avait besoin d'elle à un moment. Et c'est un échange, finalement. Et Graine, même s'il reprend son exploration, c'est-à-dire sa liberté, c'est ce qu'il a gagné finalement dans tout le roman, parce qu'il y a beaucoup de personnages asservis dans le roman, c'est-à-dire les bedons, bedaines, avec quand on leur coupe le cordon qui les lie à l'arbre, ils deviennent des espèces de créatures affligées, géniardes, larvaires, enfin, tout à fait bizarres, hein, masochistes même presque, dans l'idée, oui, j'adore recevoir des coups de toi, ou mon grand, enfin, et tout ça. Et j'ai l'impression que le roman est un chemin vers l'affranchissement, quoi. C'est-à-dire, et donc que Graine reprenne sa liberté et reprenne son exploration, à mon avis, c'est un pas vers la liberté et un pas vers la reconquête humaine, à mon sens, quoi.
Oui, moi je reviens sur la peur, mais ce que je trouve assez frappant, c'est justement ce rapport à l'intelligence. Les êtres les plus intelligents dans ce monde sont les êtres les plus dominateurs, les plus parasitaires. Et fondamentalement les moins sympathiques, et les êtres les plus sympathiques sont les plus stupides. Donc il y a je pense un rapport à l'intelligence d'Aldis qui est, enfin, moi je partage pas du tout, évidemment, là, c'est plutôt la bêtise qui m'effraie, l'intelligence ça m'a jamais effrayé, et au-delà de ça, ce que je vois, c'est que c'est complètement, là je reviens au, je sais pas ce qu'il avait fumé, mais en tout cas peut-être ce qui l'imprégnait, c'est tout simplement la culture biblique, hein, c'est-à-dire c'est un auteur anglo-saxon. On a la culture biblique est très forte dans cet univers-là. La connaissance et le départ du jardin d'Éden, c'est quand même un des thèmes fondateurs de la Bible, c'est-à-dire on se méfie de l'intelligence. On se méfie de l'intelligence et on se méfie de la connaissance, parce que l'intelligence, elle a pris pendant des siècles l'image du diable, hein, c'est-à-dire que l'intelligence est néfaste. Et la Maurie poursuit son propre chemin qui est de se développer, mais on aurait pu imaginer que cet enfant qui finalement est une espèce d'enfant sauvage, qui a une culture assez faible, qui est mis en contact d'une créature qui, elle, est très intelligente et a un grand savoir. Et que cette expérience-là, ce soit une expérience d'éveil, c'est-à-dire que l'Amaury l'éveille à une perception du monde autre, à une perception plus large, à même une sensorialité, à une connaissance. Non, c'est un rapport qui est un rapport de domination à dominer. C'est une vision d'intelligence qui est extrêmement, extrêmement, là encore, à mon avis, négative. Et finalement, Green ne s'en affranchit qu'à partir du moment où il s'en sépare. C'est-à-dire, pour s'affranchir de cette intelligence, il faut s'en séparer, même si on en garde un petit peu quelque chose. Non, moi, je pense que là encore, l'auteur a une vision non seulement pessimiste, mais même noire de ce qu'est l'intelligence. Et dans ce livre, moi, j'ai ressenti qu'au fond, si la Terre pouvait se passer d'intelligence, elle serait peut-être plus heureuse. Moi, personnellement, là aussi, je pense qu'il y a une incompréhension complète de ce qu'est la nature, parce que pour revenir au monde végétal, il y a une intelligence végétale qui n'est pas celle qu'il décrit, qui n'est pas ces espèces de créatures carnivores, donc qui passent là encore sur la domination, l'agressivité, mais une intelligence de forêt, par exemple, quand les arbres sont attaqués par des maladies, enfin, certains arbres ont la capacité d'aller prévenir, donc les plantes ont le temps d'aller prévenir les arbres qui sont situés à des kilomètres de là, la maladie avance lentement, ils les préviennent par des messages chimiques. C'est une intelligence collective que la nature a développée et qu'on ne retrouve absolument pas dans le livre, avec cette méfiance de l'intelligence. Donc là encore, enfin, moi je suis assez critique quand même sur cet auteur et sur ce livre.
Donc on voit que ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a effectivement tout un tas de discours et beaucoup de thèmes qui sont comme ça activés. Donc on voit qu'il y a une sorte effectivement de discussion autour de l'adaptation à la nature et l'intelligence. À un moment donné, le dauphin qui s'appelle Sodal, effectivement, explique à Green que que l'intelligence quelque part est inutile, enfin qu'effectivement que cette curiosité, c'est ça qui aura perdu l'être humain, qu'il voudrait mieux effectivement s'adapter au monde, à la nature, pour être heureux plutôt que d'essayer de s'affranchir comme ça de la nature. Donc on peut se poser un peu la question de savoir si finalement l'utopie ou le bonheur pour l'homme, est-ce que c'est s'adapter à la nature ou c'est plutôt la combattre ou essayer de s'opposer à elle et de construire une sorte de culture hors de la nature. C'est une question un peu plus générale qui peut dépasser un peu le livre, mais voilà, je voulais vous poser cette question parce qu'il me semble que c'est une des questions qui sont posées à travers un peu ce livre.
Moi je dirais qu'il faut d'abord essayer de la comprendre. Justement, la nature, on est une forme d'intelligence de la nature, peut-être la forme la plus mobile et en organisation l'une des plus complexes, mais la nature a développé d'autres formes d'intelligence, justement ce que je trouve qu'elle dit ne reflète pas trop. Et le premier intérêt de l'intelligence, c'est la capacité de comprendre. Cette vision où... qui est un peu où on reviendrait à un état fœtal, végétal, etc., et où là on serait heureux, pour moi, elle est, enfin, je sais pas, mais ça, moi, ça a plutôt tendance à m'hyper stresser qu'autre chose, c'est-à-dire que, ou alors il faut peut-être fumer des champignons pour être à l'aise avec cette vision-là, ouais. Ce qui n'est pas mon cas.
Les ingères plutôt, non.
Il faut avoir la morille chevillée au cerveau.
Alors, tu parlais de la Bible tout à l'heure, c'est vraiment la sortie de l'Éden, et ça, c'est de travailler la terre, la sueur de son front, c'est domestiquer la nature, c'est la naissance des agriculteurs et donc des sédentaires qui font place aux cueilleurs, chasseurs vivant dans le sein de la nature. Il y a une tentative donc de l'humanité à ce moment-là de dompter la nature, c'est-à-dire, et moi je pense qu'on ne réussira jamais à dompter la nature. Et c'est un petit peu ce que démontre le livre de façon détournée, fantasmagorique encore une fois, mais la nature reprend toujours ses droits, c'est-à-dire que quand l'entreprise est une ville inhabitée pendant quelques temps, elle est envahie de végétation très très rapidement. Donc à mon avis, c'est un vieux fantasme humain et une erreur que de croire qu'on peut dompter la nature, qu'il faut vivre avec, c'est tout à fait différent. Et ça rejoint peut-être des préoccupations actuelles avec les OGM et les tentatives de domestiquer la chose, c'est-à-dire d'intervenir directement sur la chaîne du vivant pour dire voilà ce qu'on peut faire de la nature ou voilà comment on peut transformer la nature. Et je pense que là, on joue un jeu extrêmement dangereux dont parle peut-être Aldis. Alors peut-être que c'est pré-écologique dans ce sens-là, le livre, en disant finalement la nature finira par vous dominer, parce qu'on ne dompte pas la nature. C'est un vieux rêve, je pense, qui ne se réalisera jamais, parce que il y a une question de survie aussi de la nature, quoi, et elle se met en mode survie, et donc du coup on ne peut pas absolument pas la dominer, enfin je pense pas. Donc c'est vivre avec, apprendre à la comprendre, comme disait Norbert, peut-être apprendre à la respecter. Et je pense que du coup il y a une... Il parle beaucoup de symbiose dans le livre, c'est des espèces de symbiose qui se créent entre les individus et l'élément naturel, sans aller jusqu'à la symbiose, mais il y a une véritable intelligence à trouver qu'à mon avis nous n'avons pas encore trouvé avec la nature. Je ne sais pas si c'est condition du bonheur, mais c'est la condition indispensable pour notre survie en tout cas.
Bah, là, dans le monde vert, en fait, dans les espèces de brefs aperçus historiques, distille Brian Aldiss au long du livre, à un moment, il décrit la chute des civilisations par une espèce de brusque résurgence de la nature due au fait que donc, le soleil s'est mis à gonfler, ça a réchauffé la planète. Et du coup, la jungle s'est mise à foisonner et puis à phagocyter les villes en deux temps, trois mouvements. Bon, il ne s'étend pas d'ailleurs trop sur le sujet. Mais juste pour dire qu'en fait, quel que soit le degré de civilisation, la nature peut le submerger. Et ça, on s'en rend compte, je dirais, quasi quotidiennement actuellement avec les catastrophes climatiques qu'on subit, où un tsunami, une tempête, un incendie, une inondation peut en quelques heures détruire tout un pan de société que l'humanité a mis des siècles à construire. Et donc, effectivement, pendant des siècles et jusqu'à encore aujourd'hui, le credo, ça a été l'homme doit dominer la nature, il doit être maître de la nature. Bon, ça a fait, on aboutit à la sixième extinction massive des espèces. Je pense que c'est le résultat que ça a eu. D'un autre côté, il y a eu des sociétés humaines qui étaient, elles, plutôt asservies à la nature, ou du moins qui vivaient dans une harmonie profonde avec la nature. Je pense à certaines tribus indiennes, à la société chinoise antique, au bouddhisme.
Ce qui pose
après
le problème des civilisations, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une vraie civilisation ?
Voilà.
C'est celle qui laisse des traces ou celle qui ne laisse pas de traces. Ça,
et donc voilà, les civilisations indiennes ou bouddhiques antiques n'ont pas laissé beaucoup de traces, mais ont laissé par contre une certaine sagesse dans l'esprit humain. Qu'on redécouvre maintenant. Et comme dit Pierre, de toute façon, la nature est plus forte que nous. Donc, vouloir en être maître ou la transformer dans des labos ou la transformer d'une façon industrielle par des monocultures géantes, par des élevages industriels, etc., c'est forcément voué à l'échec. Et ça peut que nous retomber sur la gueule de toute manière. Bon, d'un autre côté, peut-être qu'un jour, justement, quand la nature nous aura bien foutu par terre, on risque peut-être, par un effet de balancier, de tomber dans l'excès inverse et de lui vouer un culte tout aussi extrême et tout aussi nuisible pour l'humanité, si, par exemple, se créait une société où il serait défendu de toucher à quoi que ce soit. De modifier la nature en aucune manière, par exemple. Plus le droit de tuer un animal, plus le droit de cueillir une plante, plus le droit de cultiver un jardin, parce qu'on offenserait la nature. Ouais, j'ai écrit un bouquin là-dessus, d'ailleurs, déjà. Et, des yeux dans le ciel, c'est un peu le sujet à la base. Et donc, ça créerait une espèce de dictature écologique qui serait tout aussi nuisible à l'humanité que l'exploitation de la nature forcenée qu'on fait actuellement. Et donc, effectivement, la voie juste, c'est la voie du milieu, quoi. C'est la symbiose harmonique, en fait. Je dirais plus qu'une exploitation raisonnée des ressources, ce qui est le terme à peu près officiel qui est utilisé maintenant dans l'agriculture bio etc., exploitation raisonnée des ressources. Moi, je dirais plutôt une symbiose harmonique, en fait. La nature est extrêmement foisonnante et généreuse. Quand elle peut l'être, je veux dire, on peut avoir... elle pourrait nourrir 10 milliards d'habitants si on voulait, sans aucune modification, simplement, comme disait Norbert, en comprenant mieux comment elle fonctionne et en optimisant ce fonctionnement de façon à ce que ça tourne au mieux, quoi, et avec le moins de nuisances possible. Donc, et tout en vivant en harmonie avec elle. Je pense que c'est ça la justesse, en fait. Et c'est pas du tout l'espèce de terreur que nous distille, de la nature que nous distille Brian Aldiss, en fait.
Oui, moi, en fait, il me semble qu'on est... tu parlais du rapport de domination. Et effectivement, c'est assez naturel pour un singe un peu évolué, qui a une vie collective, qui a un fonctionnement d'organisation collective, d'être spontanément dans un rapport de domination. Effectivement, l'intelligence que l'on peut développer, parce que la nature est foisonnante et elle a notamment inventé l'homme, donc pour moi, tout est naturel dans ce qui nous entoure, puisque nous faisons partie de la nature, y compris cette table, ce micro, etc., etc. C'est quand même la nature qui l'a créé, ou alors on a une vision déiste et on pense que qu'il y a un dieu, etc., mais si... Sinon, nous faisons tous partie de la nature. Et donc, cette nature qui nous a inventé, qui a inventé l'intelligence, elle est extrêmement efficace dans énormément de choses qu'elle a réalisées, dans ses moteurs comme le soleil, comme la fusion nucléaire. Dans la photosynthèse, on essaye de faire des panneaux solaires. On est encore très, très loin de simplement approcher ce que la nature a déjà inventé avec les arbres, c'est-à-dire des panneaux qui couvrent une surface énorme et qui s'adaptent en permanence à l'orientation des rayons. Enfin, on a énormément de choses à apprendre. Et dans cet apprentissage, c'est ce qui peut, à mon avis, nous faire sortir du rapport de domination. C'est-à-dire, le rapport de domination, c'est un rapport simple où on a compris quelques éléments. Tiens, si on met de l'engrais, qu'on met des plantes, qu'on élimine certains prédateurs de végétaux, on peut faire des monocultures de blé et se nourrir. Donc ça, c'est une première étape. Il faut passer par cette étape-là et ensuite s'apercevoir qu'il y a déjà dans la nature énormément d'intelligence, presque d'ingénierie, qu'il nous faut comprendre. Et c'est là où l'intelligence c'est le défi, hein, le défi lancé à l'intelligence. Et effectivement, vivre avec, mais même simplement, pas seulement vivre avec, c'est arriver à comprendre comment la nature a déjà résolu énormément de problèmes qui se posent à nous. Et c'est en cela, moi, que je suis au contraire extrêmement optimiste. Parce que, à mon sens, la nature est forte, elle est extrêmement inventive, et notre capacité d'invention et notre propre intelligence, si elle veut se mesurer à la nature, a intérêt d'être, de pas faire les choses à moitié. Au contraire, c'est-à-dire plus d'intelligence, c'est ce qui peut nous permettre d'aller vers un monde meilleur.
Voilà, donc on arrive gentiment au bout de cette table ronde. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de poser une question dans la salle, peut-être pour les deux minutes qui restent.
Si, après, il y a omelette au mori pour tout le monde.
Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou poser une question? Voilà. Sinon, ben oui, effectivement. Bon. Alors, sinon, effectivement, je pense qu'on va gentiment. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à rajouter.
Voilà, sinon... Je parlais de Maury, mais je veux réhabiliter la Maury, parce que ce personnage bizarre dans le roman, une espèce de truc informe qui se met autour de la tête du héros, m'est devenu sympathique, bizarrement. Parce que je vois bien qu'elle essaie de dominer le héros pour obtenir quelque chose qu'elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Enfin, elle patauge complètement, elle a besoin de cet humain pour... Et elle a plus besoin de l'humain pour vivre que l'humain a besoin vraiment d'elle. Et j'ai beaucoup de compassion pour la Maury, finalement. Je ne suis pas prêt d'en manger, je crois.
Un autre, voilà. Je crois que ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Alors, avant de conclure définitivement, je signale que nos trois auteurs seront en dédicace à 14h. donc à l'espace librairie, donc là-bas dessous. Et donc vous pourrez faire dédicacer, leurs livres là-bas à 14h. Voilà, alors je remercie Norbert Merjanian, Pierre Bordage et Jean-Marc Ligny pour leur présence et leur participation à cette table ronde. Et voilà, donc merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi.
Merci à vous.